Rencontre avec Rémi Serre, le 26 février 2022, dans sa ferme du Tarn. Pour nous, il revient sur son passage en Algérie, en tant qu'appelé, quand il avait 20 ans. Puis, il nous parle de l'association 4ACG pour anciens appelés en Algérie et leur ami contre la guerre, qu'il a cofondée en 2004, au moment de percevoir sa pension d'ancien combattant de la guerre d'Algérie. On l'écoute. Bonjour, peux-tu te présenter s'il te plaît ?
Rémi Serre, un paysan à la retraite.
On est ici pour parler de l'association dans laquelle tu fais partie, mais également de ton passé. Donc on va commencer par ça, notamment ton passage en Algérie quand tu avais 20 ans. Peux-tu nous en parler ?
Pour comprendre notre association, il faut un peu parler de la guerre d'Algérie. Alors nous avions 20 ans et... À 20 ans, on était appelé à faire le service militaire. C'était en 58. Et donc, la plupart des jeunes de l'époque faisaient les classes en France, qui duraient 4 mois, et étaient envoyés en Algérie après. Pour ma part, j'ai été appelé directement en Algérie, et j'ai fait les classes là-bas, dans un régiment disciplinaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Pendant les classes, on nous apprend... On nous apprend à obéir déjà, chercher à comprendre c'était commencer à désobéir et à tuer. À tuer, il y avait des cibles grandeur nature, et on tirait dessus pour apprendre à tirer juste et à tirer et à tuer. Voilà. Dans le civil, quand tu tues quelqu'un, tu vas en prison, à l'armée ou à la guerre. Quand tu tues quelqu'un, tu es décoré. Et voilà, ça dure 4 mois, un régiment disciplinaire, donc c'était très dur. Une discipline assez costaud. On prenait des coups si on ne faisait pas comme il fallait. On avait des horaires très durs. On faisait faire des pompes, on nous faisait faire des... ramper par terre, même s'il y avait de l'eau. Et voilà. Et au bout de 4 mois, il était fin prêt pour partir faire la guerre. Faire la guerre, pour nous, ça nous... On ne savait pas trop ce que c'était. On était partis de notre Aveyron profonde, où il y avait peu de radio, peu de journaux et pas de télévision. Donc l'Algérie, c'était presque comme si aujourd'hui on partait dans la Lune. Donc on n'avait jamais vu un bateau, jamais vu la mer. Et donc, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire là-bas. N'empêche qu'au bout de ces 4 mois, on nous avait expliqué un peu ce qu'on attendait de nous. On nous avait dit que dans les montagnes kabyles surtout, il y avait des terroristes, des fellahs qui mettaient la pagaille dans la... Dans ce pays c'était la France, c'était un département français. Et que voilà, qu'il fallait ramener tous ces terroristes à la raison, voire plus. Et donc voilà, au bout de ces 4 mois, eh ben, tu pars dans la montagne kabyle pour débusquer ces ennemis, c'est la chasse à l'homme. Donc, des fois on gagne, des fois on perd. Nous étions surarmés, nous, par rapport à eux. Nous avions l'artillerie, nous avions des vrais fusils de guerre, l'aviation. Et face à eux qui étaient sous-armés, avec des fusils de chasse ou des armes qu'ils avaient récupérées chez nous. Donc c'était vraiment la guérilla, donc il n'y avait pas beaucoup d'affrontements. On était pris des fois dans des embuscades, mais des embuscades, ça veut dire que... Quand on descendait se ravitailler à Tizi Ouzou, il y avait une bombe qui pétait sur la route, et puis le temps qu'on se mettait en marche de nouveau, et bien, il y avait des fellahs qu'on appelait qui vous tiraient dessus. Mais très vite, ils se repliaient puisque l'aviation arrivait et qu'ils n'étaient pas à faire une. Mais bon, malgré ça, il y a eu 30 000 morts, et du côté FLN, c'est entre 500 000 et 1 million de morts. C'était pas la guerre de 14, mais c'était une vraie guerre.
Tu es resté combien de temps ?
28 mois. C'était pas comme la guerre de 14 où tout le monde a été démobilisé en même temps quand la guerre a été finie. Là, il y avait une permanence de 400 000 hommes. Et comme ça a duré 7 ans, 14 fois 7, 28, il y a entre 2,5 millions et 3 millions de jeunes qui sont passés là-bas. Très vite, on s'est aperçu qu'on nous avait menti, qu'on était là pour défendre une cause des terroristes contre une population calme, et qu'on était là pour défendre le colonialisme, c'est-à-dire des colons, je ne dis pas tous, qui étaient très riches et qui voulaient ne rien perdre. Et que les indigènes qu'on appelait, puisque c'était le cours d'indigènes, et l'indigénat, c'était le cours de juste au-dessus de l'esclavage. Donc le droit de vote et la représentation parlementaire étaient très, très, très disproportionnés. Ils avaient essayé en 1954 de dialoguer, avant 1954 d'ailleurs, de dialoguer avec le gouvernement en place pour essayer d'avoir un peu plus de justice. Et voyant qu'il n'y avait pas d'autre solution que de prendre les armes, il s'est pris les armes. Donc ces terroristes qu'on appelait, c'était des gens qui avaient pris le parti de l'indépendance et qui ne savaient pas trop comment ça pouvait arriver, mais en tout cas, ils ne supportaient plus ces injustices. Quand vous voyez dans la plaine de cinq moissonneuses-batteuses qui marchaient l'une derrière l'autre, et puis au montier de la montagne, c'était un fellah qui coupait le blé avec la faucille, qui mettait ça sur le dos du mulet. Et qui prenait ses gerbes à la ferme pour faire sa provision d'orge ou de blé pour l'hiver. Et on voyait très bien que ça ne pouvait pas faire. Donc la chambrée, même si on n'avait pas la culture de maintenant, on pensait que ça ne pourrait pas durer longtemps, que ça pouvait que finir comme ça. Et si on avait eu la maturité politique que nous pouvons avoir aujourd'hui, et le courage, on aurait dû partir avec les Fellahs pour combattre le colonialisme. Mais rassurez-vous, on n'en était pas là. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il te reste à faire quand tu es là? Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas déserter. Si tu dois déserter, il faut déserter avant de partir. Il y en a qui l'ont fait. Et moi, je trouve ça très courageux. Il y a des gens même qui s'en dit qu'ils ne voulaient pas partir. Il y a eu, on parle de 2000 réfractaires, donc des gens qui ont dit « je ne vais pas à la guerre », ils ont fait 2 ans de prison. Et encore, ce n'est pas tout, quand ils sortaient de la prison, on leur disait « maintenant vous voulez y aller, vous ne voulez pas y aller, sinon vous revenez en prison ». Si tout le monde avait dit non, et je refais le rapprochement avec ce que nous parlions tout à l'heure à sujet de Covid, si tout le monde avait dit non, on n'en serait pas là. En tout cas, là, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas, pendant la guerre, si il y avait une majorité de jeunes qui avaient dit non, eh bien, le grand de Gaulle, il aurait fait la gueule. Je ne sais pas comment il s'en serait sorti, mais il aurait... Voilà. Donc, nous, on y était allés. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Tu ne peux pas déserter. D'abord, tu ne peux pas partir de ton bled. On était dans le bled, c'est-à-dire sur des pitons où on était par compagnie de 120 en général. Et là, tu étais tout autour, c'était censé être la guerre. Tandis que tu sortais du poste, il fallait être protégé, se protéger pas. Donc tu ne peux pas partir. Ou alors tu vas dans l'autre camp. Pour aller dans l'autre camp, c'est toujours tuer pour tuer. Donc tu pouvais, quand tu descends à Tidiouzou, pour les ravitaillements en armes ou en munitions, ou en ravitaillement aussi, tu pouvais te fondre la foule et partir. Pour aller où? Et puis, c'était pas tellement bien vu, hein. La guerre, tu passes pour un déserteur. Moins, bien sûr, que la guerre de 14 ou de 30, mais quand même, je pense que la plupart de la population à l'époque était pour défendre la patrie. Donc, tu restes là, tu attends patiemment que ces 28 mois passent. Et chaque jour, tu rayonnes jour parce que tu te dis j'approche du bout. T'entendais de temps en temps des gens un peu méchés qui disaient la quille bordel, c'est tout ce que tu pouvais dire. Quoi. Voilà, alors c'est une pré-représentation de ce que nous avons fait là-bas. On a connu la misère, la torture, la mort. La torture, ça a été le pire de tout. Et tout homme surtout, mais des femmes aussi, qui était là où il ne faut pas et au moins où il ne faut pas, était considéré comme un suspect. Donc, suspect, c'était toujours torturé, plus ou moins. Et donc, on a vu, parmi tous les collègues que j'ai rencontrés dans notre association, dont nous parlerons tout à l'heure, la torture, c'est ce qui a marqué le plus. Voilà. Parce que, à la limite, tu tues quelqu'un, au moins, il ne souffre pas. Mais quand tu le tortures et que tu... Et quand tu l'as assez torturé, tu le laisses, tu le rafistoles pour que dans 15 jours, il reparle. Voilà. Et puis, on a vu la mort, on a vu la misère, on a vu des gens déplacés. Il y a 2 millions de gens déplacés, il ne faut pas l'oublier, ça. Pas oublier les gens déplacés. Il y avait 8 millions d'indigènes à l'époque. 2 millions de déplacés, ça fait une bonne proportion. Alors qu'ils étaient déplacés, ben dans les montagnes un peu arriérées, on poussait les gens vers la plaine pour que les feux de la gare aient plus difficile à se ravitailler. Et puis, parce que tout ce qui était là, ben l'aviation pilonnait les villages, déjà, les détruisait. Et dès qu'ils voyaient quelqu'un dans ces zones-là, même si les gens déplacés venaient ramasser leurs figues ou leurs... Ou leurs olives, voilà, ils étaient considérés comme des feux de la gare et on tirait dessus.
Est-ce qu'on considérait que les villageois d'office protégeaient les feux de la gare ?
Ah ben, c'était d'office. S'il n'y avait pas eu la population avec eux, déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup d'armes et pas beaucoup de ravitaillement, ils n'auraient pas tenu longtemps.
Et c'est pour ça qu'on les déplaçait des villages pour
et on pouvait en déplacer les villages pour que les feux de la gare aient plus difficile à se ravitailler. Puisque s'il fallait faire 10 km au lieu de 2, c'est pas pareil. Et puis ils venaient voir leurs femmes, leurs familles dans la nuit. Voilà. Donc ces populations déplacées, il y a beaucoup de morts qui sont morts là. Il y a eu des camps, ce n'est pas des camps de concentration, mais c'est des camps qui mangeaient plus ou moins à la faim, qui avaient la Kabylie, il fait froid, il ne faut pas croire, hein, c'est à 2000 mètres. Il y avait aussi de la neige et qui mouraient aussi de froid. Donc il y a eu beaucoup de morts dont on ne parle rarement dans ces camps. Ils étaient ravitaillés un peu par les SAS. Les SAS, c'était service administratif. Je cale sur le troisième S. Enfin, en tout cas, c'était des gens qui étaient chargés de ravitailler ces camps. Donc il y avait quelques sacs de semoule qui arrivaient, mais enfin, c'était pas très, très joyeux. Alors ces gens-là, ils venaient des zones... qu'on avait dû évacuer, où ils avaient 3 chèvres, une brebis et quelquefois une vache. Ils vivaient très sobrement, mais en tout cas, ils vivaient. Et là, il n'y avait plus rien. Il est interdit d'aller, de revenir. Alors, il y en avait qui allaient, des fois, parce que à force que tu crèves de faim, tu passes la frontière, mais voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ces gens-là, quand ils revenaient dans ces villages, ils étaient considérés comme des feux de la gare. Les remords, ce n'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qu'on n'a pas fait. Et donc, pour prendre quelques exemples, le gars au fond d'une vallée qu'on tape comme sur une bête parce que, un prisonnier, parce qu'il ne veut pas nous dire où est la cache, ou qu'il ne sait pas où est la cache. Eh ben, tout simplement, à 3 ou 4, on chope l'adjudant, c'est un adjudant. Il lui dit arrête de le taper, sinon t'en fouine, quoi. Mais ça veut dire être courageux, ça veut dire être politiquement, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, être bien au courant des événements. Savoir à quoi tu t'engages, c'est le conseil de guerre, ça. C'était pas une guerre, parce que c'était considéré comme la pacification. Donc c'était pas une guerre. Ce qui faisait un truc comme ça, il n'était pas condamné à mort. Sinon, en temps de guerre, un truc comme ça, c'est la mort. Donc faut être courageux. Mais n'empêche qu'on l'a pas fait. Le gars qui, pendant la guerre, a caché des juifs, aussi, il prenait là, le risque d'être tué. Et là, un jour, j'étais de garde, moi, au poste, parce que c'était 2 heures de garde, et puis quand tu viens te remplacer, tu rentres dans ta chambre. Je passe devant la guitoune où c'était la salle de torture. Et là, tu entends des cris, et puis on ouvre la porte et on jette une femme nue dehors. Et on l'arrose d'eau glacée, en plus. Donc cette femme, elle se blottit contre un mur, et puis voilà, elle est là, elle frissonne. Et puis moi, je passe. Et puis moi, je dis... C'est là aussi où j'aurais pu aller chercher une couverture et la mettre sur le dos de cette femme. Ben, je ne l'ai pas fait. Donc, si tu veux, on ne se reproche pas trop. Enfin, on ne se reproche pas trop, ça dépend qui. Mais moi, en tout cas, je ne me reproche pas ce que j'ai fait, je me reproche ce que je n'ai pas fait. C'est trop tard. Après, on avait René là. Armand Bernet, on se cachait avec lui parce qu'on n'était pas nombreux pour aller porter de l'eau et un peu de bouffe aux prisonniers qui étaient dans une espèce de cave. Là. On les laissait là pendant un temps, puis on les prenait ailleurs dans des endroits où c'était spécialisé pour la torture. Quoi. Mais il fallait attendre que le convoi de la semaine descende à Tizi Ouzou. Donc ils attendaient là, jusqu'à ce qu'ils descendent à Tizi Ouzou. Et puis là, ils étaient livrés et il y en avait peu qui revenaient. En tout cas, je n'ai pas connu qui reviennent. Voilà. Donc, quand tu as vu tout ça, tu repars marqué avec tout ça, tu revois. On a aussi, pendant quelques. Parce que de temps en temps, on avait droit à du repos, qu'on appelait, c'est-à-dire qu'on nous envoyait dans la plaine pour garder des pieds noirs, des pieds noirs des riches colons. Donc, on a vu aussi comment vivaient ces colons. Ils avaient 10, 15 ouvriers qui arrivaient tous les matins, Il y avait beaucoup de légumes de plein champ, des agrumes. Et ces gens-là travaillaient. Et puis, il y avait même. Tu voyais qu'il y avait un chef. Tu voyais même qu'il avait un fouet. Donc, c'était tout à fait. Ce n'était pas la dictature, mais ça y ressemblait. Après tout ça, tu es au bout de 28 mois. Enfin, on te lâche, tu reviens dans ton pays. Et là, personne ne te demande rien. Alors, de poser des questions, est-ce que le gaz allait marcher vite ou est-ce que tu as fini les vacances ou un truc comme ça. Donc, tu voyais très bien que les gens, ils ne voulaient pas savoir. Et du coup, tu disais rien. On revenait en militaire. Et après, à l'occasion, tu rapportais ces habits militaires à la gendarmerie la plus proche. Et moi, je sais que j'avais rapporté les habits militaires à la gendarmerie le jour de la foire. Donc, ils savaient très bien, les gens, que je revenais d'Algérie. Et personne ne te posait des questions. Donc, si tu veux rien savoir, tu dis rien. Et voilà, la vie te prend, tu continues, tu fais avec. Et tu arrives à 65 ans. Et là, si tu ne le demandes pas, on ne te donne rien, si tu le demandes... Tu as droit à une retraite de combattant qui n'est pas spéciale à l'Algérie. En 14, ils avaient, et en 40 aussi. Et donc, si tu demandes la retraite, on te donnait en 2002 430 euros par an. Et donc, cet argent taché de mort, taché de torture, et taché de toutes ces misères. À quatre, nous avons dit on ne peut pas prendre cet argent. Voilà, on ne peut pas avoir cet argent.
Donc ça, c'est en 2004, à peu près, quand vous décidez de créer l'association.
Voilà. Et alors, dans un premier temps, on voulait le refuser. Et puis on a dit, si on le refuse, on fait encore un cadeau à l'État, c'est pas très bien. Donc on a dit, on va essayer de le prendre et puis on verra ce qu'on en fait. Et là, on a été aidé par le COT, le comité d'objecteurs tarnés, qui avait l'habitude des contestations, c'était né sur le Larzac. Ils avaient aidé les gens du Larzac à se défendre contre l'agrandissement du camp. Ces gens-là avaient l'habitude de conférences de presse, ces gens-là avaient l'habitude des journalistes. Et c'est, je pense, grâce à eux, si notre association a débuté. On a fait des conférences de presse, On a invité pas mal de journaux régionaux, nationaux. Le Monde, La Croix, Politis, Campagne solidaire. Et à l'époque, il y avait Daniel Mervé qui faisait une émission « Là, voici, j'y suis ». Il est venu quelques jours après à la ferme et lui, il nous a fait passer de 15 adhérents à 60. Et c'était parti, le bouche à oreille, nous sommes arrivés. 150 adhérents qui reversaient la totalité de leur pension. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins parce que les gens meurent, les gens vont en EHPAD, les gens se fatiguent aussi, il y en a qui... Voilà. On est une centaine encore. Et bien, voyant que notre association a diminué, nous avons ouvert la porte aux amis. L'association des anciens appelés contre la guerre, on a ajouté un A, ça fait amis. Donc il y a 4 A et contre la guerre.
Pour anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre, c'est ça.
Voilà. Et donc, que faire de cet argent? Le premier 4 chèques, grâce au COT, comité d'objecteurs tarnés, On avait un convoi militaire qui partait pour la Tchétchénie. Et on a donné cet argent à la Tchétchénie parce que c'était pour acheter des livres et des habits aux petits Tchétchènes combattus par les Russes. Mais voilà, après on a réfléchi que c'était quand même mieux de le donner à l'Algérie. Et aujourd'hui, il y a 60% de l'argent qui va en Algérie, 30% en Palestine, parce qu'on considère que la Palestine est un peu une guerre coloniale. Et puis 10% qu'on distribue dans des cas qui nous paraissent importants. Nous avons une commission, dont je ne fais pas partie, qui étudie toutes les demandes d'argent. Parce que quand on a des sous, tout le monde en demande. Et suivant l'importance que cette commission pense, elle distribue l'argent à l'un ou à l'autre. Mais on garde ces proportions de 60, 30 et 10. Voilà. Quelques exemples, nous donnons une association de Boumerdès, où après le tremblement de terre qui était si important, là, il y avait des femmes qui ont créé une association pour la veuve et l'orphelin. Nous donnons à une autre association à Babelouette. Là, nous donnons des sous à une association qui essaye de faire de la culture par tous les moyens, avec des jeunes adolescents, musique, livres et radio. Et nous donnons à des paysans ou des paysannes qui veulent faire l'agriculture de montagne, des petites structures, bien sûr. Des gens qui ont 10 ruches, des gens qui ont 3 vaches, qui ont quelques chèvres. Et à ce sujet, moi, je suis allé au village de Tazla, un village très symbolique qui avait été pendant la guerre en zone interdite, qui avait été complètement détruit, et la plupart de ces villages qui ont été détruits n'ont pas été reconstruits. Mais là, ils ont reconstruit. Il y a 17 familles qui essayent de revivre de ce village et qui essaient de revivre partiellement de l'agriculture. Et là, moi, je suis resté 2 fois 15 jours. Et nous avons essayé de travailler ensemble avec nos sous, de remettre l'eau au village, de remettre l'eau dans les cultures vivières, d'acheter un car pour amener les gamins à l'école, de replanter des arbres fruitiers et des vignes de montagne pour faire du raisin, mettre des poubelles aussi. Tout n'a pas été une réussite. En tout cas, le fait que nous donnions aussi des sous, ça les aidait à demander des sous ailleurs, parce qu'ils étaient plus crédibles, donc ils ont eu pas mal de subventions. Et ce village, aujourd'hui, est un peu méconnaissable par rapport à ce qu'il était quand ils sont revenus là. Voilà un peu ce que nous essayons de faire avec notre argent là-bas. Puis, depuis le début de l'association, en tout cas très vite, il y a beaucoup de gens qui ont dit « nous voudrions revenir là-bas ». Donc ça n'a pas été facile. Nous faisions partie des gens qui essayaient d'organiser ce voyage. On a essayé avec l'Office national des Moudjahidines, l'ONM, qui est l'équivalent de la NACA ici. Et ces gens-là, ils ne voulaient pas de nous. Et on peut comprendre. On peut comprendre parce que c'est des gens qui sont pro-gouvernementaux. Et nous, on dérange. Alors que la NACA, le drapeau, la patrie, tout ça, ça va de leur sens. Qui c'est qui est au gouvernement aujourd'hui? C'est l'armée des frontières. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 7 à 8 000 combattants, je ne suis pas trop sûr de mes chiffres, qui combattaient dans les montagnes kabyles surtout. Et il y avait 25 000 personnes qui attendaient derrière les frontières tunisiennes pour prendre le pouvoir. Et ces gens-là, aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir. Si aujourd'hui l'Algérie, année ou l'année, ça dure depuis ce temps-là. Parce qu'ils n'ont pas été colonisés par des colons français, mais ils ont été colonisés par des militaires qui attendaient pour prendre le pouvoir. Et vous savez très bien qu'on ne fait pas de détails là-bas. Ceux qui ont été contre ce pouvoir, ils ont tout simplement été tués. Et donc, on n'a pas pu aller là-bas par l'Office national des Moudjahidines. Et puis l'un de nous, c'est une dame, qui a connu l'Office national du tourisme par des hasards. Et à travers l'Office national du tourisme, on a pu organiser des voyages. Et donc, on a organisé pas mal de voyages. Pour ma part, je suis allé 7 ou 8 fois. Et je ne suis pas allé à tous les voyages. Et il y a des amis qui sont venus. Il y a donc des adhérents. Beaucoup aimeraient aller là où ils ont combattu. Ça n'a pas été possible pour tout le monde. Mais en tout cas, là-bas, quand tu vas là-bas, on a martyrisé ce peuple pendant 130 ans. Et aujourd'hui, on te dit bienvenue, bienvenue. Alors, tu te dis, ils sont fous. où ils sont meilleurs que nous. Parce que je ne sais pas si nous, 130 ans d'occupation, on serait capable de leur dire bienvenue, bienvenue. Alors ceux qui se disent racistes, c'est pas... bah, peut-être qu'ils pourraient prendre la leçon dessus. Enfin, on arrive là-bas, en tout cas, on est reçu partout, par des municipalités, par nos associations. On fait la fête quand on arrive. On est capable d'organiser un repas, on est capable d'organiser des soirées. Et pour ma part, je n'ai pas connu une seule hostilité. Quoi.
Mais ils vous demandent de raconter votre histoire ? Comment ça se passe ?
La plupart des gens qui sont en Algérie aujourd'hui, quand ils parlent de guerre, ils parlent des années noires, de 90 à 2000. Donc cette guerre, ça parle aux anciens. Et on en voit des anciens, on a rencontré des anciens Pelagas. Mais je crois que la population, elle a oublié un peu ça. Elle a oublié, c'est une population très jeune. Ils sont passés de 8 millions à 45 millions, vite fait. Cette population a changé beaucoup. Et c'est plutôt des gens anciens qui nous reçoivent et avec qui on fraternise, quoi. Et puis les anciens parlent français. Les jeunes, beaucoup moins. Donc c'est encore plus difficile. Mais enfin, voilà, pour raconter un seul fait, nous étions reçus par la municipalité du Croup, à côté de Constantine. Et le maire nous reçoit, il dit vous avez été des salauds, vous avez été des tueurs, vous tiriez sur tout ce qui bouge. Vous avez tué mon père, ma mère, ma belle-mère et mon beau-père. Alors, nous avions 3 ans à l'époque, nous avons été élevés par des oncles et des tantes. Et voilà, et puis alors on dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quoi, qu'est-ce qu'on fait ? Le gars positif, et là c'est fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Et puis voilà qu'un de nous, un Parisien, le chantre, il s'appelle pour donner un nom. Il s'avance là, parce que le maire avait dit, c'est le bataillon d'à côté, là, dont je ne me rappelle pas le nom, qui a tué tout ce monde. Il s'avance, il dit, moi j'étais au bataillon d'à côté. Et c'est peut-être moi qui ai tué ton père. Et, en tout cas, je faisais partie du groupe. Et alors là, à Paris, il y a un grand moment de silence. Et puis tu arrives à faire redémarrer la conversation, c'est pas facile. Et l'histoire finit pas là. L'après-midi, le gars, il téléphone, il dit, je voudrais parler au gars qui ce matin a dit ce que je viens de dire. Et il l'a invité à manger. Et il avait invité ses enfants, et ils ont mangé ensemble. Voilà. Alors nous essayons, à travers cet exemple, de rencontrer des gens du peuple, de rencontrer des gens qui ont vécu cette guerre, ou en tout cas qui l'ont plus ou moins côtoyée. Nous ne voulons pas rencontrer des politiciens, des politiques tout court, ou des politiciens encore plus. Nous ne cherchons pas à rencontrer des dirigeants de l'Algérie. Et c'est à travers nos voyages, nous voulons rencontrer des gens qui, comme nous, essayent modestement de combattre ce racisme. Et... voilà. Alors, parmi nous, il y a parmi nous, dans l'association, il y a des gens qui auraient voulu, justement, continuer à être des colons en Algérie et à leur donner des leçons là-bas. Et la plupart d'entre nous, on n'est pas là pour donner des leçons à ce pays, même si nous aimerions que ça marche autrement. On les a merdés pendant 130 ans, ça suffit. C'est pas à nous. Ce que nous aurions aimé, qu'on n'a pas réussi à faire, nous avions rencontré 2 anciens moujahidines, Joudi Atoumi, qui est mort il y a 6 mois, et un nommé Lamine, qui nous avait promis de faire la même association en Algérie, et avec qui nous aurions voulu travailler ensemble. Ils ne l'ont jamais fait. Est-ce qu'ils n'ont pas pu ? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu ? Parce que créer une association là-bas, ce n'est pas si évident qu'ici. Voilà, donc on est un peu déçus de ce côté-là, mais en tout cas, nous ne voulons pas travailler avec des gens au pouvoir. Voilà. Ce n'est pas notre truc. Nous pensons que c'est pas là qu'on peut faire quelque chose. Ce n'est pas dans nos ambitions.
Comment elle est comprise, votre démarche, par justement les plus jeunes là-bas ?
Nous avons intervenu une seule fois en Algérie, c'était moi-même, à Tizi Ouzou, où il y avait le collège qui était venu là et que voilà, qu'ils ont écouté sagement. Mais il n'y a pas eu beaucoup de questions. Et par contre, il y avait des anciens moujahidines, il y en avait 7 ou 8 ou 10, qui sont rentrés dans la salle, dont un très méfiant, parce qu'on avait parlé avant, et qui nous avait pris pour des tueurs. Et à la fin de notre présentation, de notre association, on a eu l'impression qu'ils avaient changé leur idée, quoi. Et ils sont venus vers nous et ils ne nous lâchaient plus. Donc je pense que tous les appelés, les engagés n'ont pas été des tueurs. Je peux raconter aussi une histoire d'un ancien Pelaga qui nous racontait que par deux fois, on n'avait pas voulu le tuer. Une fois, il était coincé dans un bois et l'aviation arrivait avec des joints à palme, des trucs qui grillent. Donc si je reste dans le bois, je suis grillé, si je sors, je suis tué. Parce qu'il y avait une mitraillette tout autour. Et alors, il sort le nez à la route, là, et puis il y a un gars, une mitrailleuse, qui le braque, qui dit... Et puis en même temps, il fait signe avec la main de passer. Il dit, c'est pour mieux me tuer. Et puis non, il a tiré en l'air. Et une autre fois, il s'était caché à côté d'une source, alors que nous faisions la chasse au Felaga, comme ici au sanglier, et qu'il n'avait pas été vu quand la troupe est passée, mais qu'après, quelqu'un qui avait l'habitude, un ancien de chez nous, qui va remplir sa gourde à la source. Parce que quand ils sont arrivés en bas, il y avait une petite pause, et il l'a vu. Donc il dit, il va me partager. Et puis le gars, il remplit sa gourde, il jette un clin d'œil, et il s'en va. Et bien sûr, il ne l'a pas dit à ses collègues, parce que si lui n'avait pas voulu tuer, il y en a qui se seraient fait un plaisir. Donc ce gars-là, il a fait un livre en disant, tous les appelés, ce n'étaient pas des tueurs. Après, ne soyons pas niais, il y a des appelés qui ont été des tueurs. Et des appelés, des engagés encore plus. Et tu connais peut-être les crevettes de Bijard, non? Et Bijard, lui, il mettait les prisonniers, il mettait les deux pieds dans un seau. Il coulait du béton dans le seau. Quand le béton était sec, il prenait ces gens-là en hélicoptère et les jetait dans la mer. Donc tout le monde n'a pas été très, très, très gentil. Mais il y avait de tout, voilà. Il y avait de tout. Donc nous faisons des voyages là-bas et puis nous intervenons dans les écoles là-bas une fois. Mais une fois, je crois qu'on n'a pas intervenu d'autres fois. Par contre, en France, on intervient assez souvent, oui. Et là, avec cette épidémie de ce Covid, on intervient moins. Sinon, sur Paris, il y avait des gens de notre assaut qui intervenaient un peu partout. Moi-même, je suis allé à Toulouse plusieurs fois. Et là, on n'a pas une écho. Ça dépend si c'est des lycéens ou des collégiens. Je crois qu'il faut qu'ils aient une certaine mature, les gens. Mais enfin, voilà. Je prendrai un seul cas où, à Montpellier, au lycée Monet, il y avait une enseignante qui était prof d'histoire et qui avait voulu faire une journée sur l'Algérie. Elle avait mis les moyens, elle avait fait pendant tout le trimestre, elle avait préparé ses élèves à cette journée. Alors il y en avait qui avaient fait une enquête sur les Pinoirs, l'autre sur les Arquis, l'autre sur les Felaga, et l'autre sur la torture, l'autre sur la mort. Et le matin, ils ont intervenu et ils ont présenté leur recherche, leur travail. Et l'après-midi, cette dame était allée loin, elle avait fait venir un ancien combattant, je vous dis à Toumi justement. Et à la tribune, il y avait un ancien combattant FLN et puis deux combattants de chez nous. Il y a déjà presque d'être à la même table, j'aurais pu ne pas parler. Mais je reprendais une parole qu'a dit Joudy, parce que je la dis souvent. Joudy leur dit, parmi vous, il y a des futurs responsables. Il y a des futurs hommes politiques. Lui qui avait combattu 7 ans dans le maquis sans se faire reprendre à coucher dehors, qui savait ce que c'était la guerre, et vraiment la guerre. Que la plupart se faisaient tuer au bout de 2 mois, au bout de 2 ans. Et lui, il avait réussi à tenir le coup parce que c'est lui qui avait écrit que par deux fois les Français n'avaient pas voulu le tuer. Il leur a dit, sachez que vous ne résoudrez jamais le problème par la guerre. Et il y a eu un moment de silence et puis ces paroles sont restées ancrées chez moi. Je trouve que la guerre, ça ne finit pas à coup de fusil, c'est un moment pour finir par négocier. Donc voilà, je pense que c'est des paroles à ne pas oublier. Et puis nous combattons contre ce racisme. Que quoi qu'on en dise, avec les élections qui se préparent et tant d'autres choses, et quand on ose dire à la télé, à la télé ou à la radio que les Arabes, c'est tous des feignants, que c'est tous des menteurs, que c'est tous des pauvres types, ça veut dire qu'on se prend pour des gens au-dessus d'eux. On ne se prend pas en égo. Et là-bas, ce monsieur Lamine, dont je parlais tout à l'heure, il nous a dit pareil, il nous a dit « Vous avez été des salauds, vous avez tué sans regarder ». Et aujourd'hui, nous sommes prêts à dialoguer. Et il dit cette parole que j'ai retenue. Pourvu qu'on nous prenne pour des égaux. Parce qu'à l'époque, on ne les prenait pas pour des égaux. On les prenait pour des êtres inférieurs. Mais si on n'avait pas pris les prisonniers pour des moins que rien, on n'aurait pas agi comme ça. On les prenait pour des gens d'une autre race, ou en tout cas inférieurs à nous. Tu peux pas torturer quelqu'un. Tu peux pas tuer quelqu'un si tu penses qu'il est égal à toi-même.
Rémi, est-ce que tu peux nous dire un mot sur votre présidente d'honneur, parce que c'est quelqu'un quand même d'assez remarquable. qui est la veuve de Jacques de Boyardère, c'est ça?
Et notre première assemblée générale avait lieu à Albi. L'assemblée générale a lieu à Albi. Et donc, elle est venue à notre première assemblée générale à Albi. Et elle a dit, moi, je vous rejoins tout de suite. Quand j'ai lu votre programme d'association, je me suis dit que si mon mari vivait encore, il vous rejoindrait tout de suite. Et donc, elle a pris la parole, elle a dit, moi, je suis tout à fait avec vous. Vous n'êtes pas responsable. Et surtout, parlez. Et elle nous a raconté un peu son histoire, que son mari, quand il avait fait la guerre de 30, et la guerre d'Indochine, et puis quand il a vu en Algérie qu'on employait les mêmes méthodes que les nazis employaient en France, il a dit, non, je ne peux pas. Donc, il a été allé voir à Alger, le responsable là-bas, je ne sais pas comment il s'appelait, et il avait dit, voilà, ça ne va pas, quoi. Nous pratiquons les mêmes méthodes que Lacoste. Ça y est, Lacoste, je crois qu'il s'appelait. Et il a dit, nous pratiquons les mêmes méthodes que les nazis pendant la guerre, moi je ne peux pas. Ce monsieur, il avait dit, il était sous les ordres du commandant Massu. Et il a dit, laissez faire Massu, voilà. Et Massu, vous savez très bien que sur son lit de mort, il a dit, on aurait dû faire autrement, on aurait pu faire autrement. Donc, il avait quelques remords, contrairement à Ossarès, qui a toujours dit que c'était bien la torture. Et donc, son mari, il a dit, je démissionne. Il a fait de la forteresse, d'ailleurs. Et il a démissionné, et puis il a découvert le Larzac, il a découvert l'Anza del Vasto, et puis il est devenu pacifiste, il est devenu un gars contre la guerre, contre les armes. C'était un général. Du coup, moi, je suis allé la voir en Bretagne, cette dame. Et elle nous a reçus chez elle. C'est avec elle que nous avons fait le film Retour d'Algérie, le gars qui a fait le film de Retour d'Algérie, Emmanuel de Vautrin, qui la connaissait bien, et c'est pour ça que je suis allé chez Emmanuel, et puis on est allé voir cette dame. Et cette dame nous a raconté comment son mari était devenu général parce que tout le monde dans la famille était général comme ceux qui étaient paysans, ils devenaient paysans. Et qu'il avait suivi cette carrière et puis il s'était aperçu au bout d'un moment que ça ne pouvait pas faire, quoi. Donc elle pensait que, nous disait-elle, que ça ferait boule de neige, qu'il y en aurait d'autres qui démissionneraient. Et il n'y a eu que lui. Parce qu'il y a la carrière, parce qu'il y a les amis. Et il nous disait, on a perdu tous les amis, il a fallu faire un réseau, personne ne regardait. Quoi.
Et à ta connaissance, est-ce qu'il y a d'autres associations comme la vôtre?
Non, il n'y en a pas d'autres. Nous sommes uniques dans les trois guerres. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est remis en cause dans la guerre qu'il avait faite et qui essaye de renouer avec le... Après, il y avait des gens comme Simone Veil qui, après avoir libéré de ses camps, vous savez tous ce qu'a subi Simone, est partie en Allemagne pour rencontrer des anciens ennemis. Et quelqu'un lui a dit, pourquoi tu reviens si vite là-bas ou pourquoi tu reviens là-bas? Et elle a dit, pour que ça ne recommence pas. Donc moi, je pense que pour que ça ne recommence pas, il vaut mieux quand même dialoguer. Sinon, si on garde cette haine de tout ce qu'on a perdu d'un côté comme de l'autre, ça peut que recommencer. Il nous reste peu de temps, parce qu'on est tous vieux là-dedans. Et donc, les témoins vont disparaître. Les témoins vont disparaître et il y aura après nous, il y aura des historiens, des gens qui raconteront. Mais ça n'aura pas le même poids. Et donc, on se dit entre nous, tant qu'on est encore valide, qu'on peut, il faut raconter notre histoire. Et on s'en fait un devoir de le raconter, contrairement à ce qui a été pratiqué pendant 50 ans où personne n'a rien dit. Moi, je pense qu'il faut le dire. Il faut dire que la guerre, ça ne va pas, quoi. Qu'il faut pas. On n'est pas sur terre pour tuer, ni pour massacrer, ni pour torturer. Et c'est le message un peu de cette association. Et là aussi, elle a contribué, cette association, à faire parler les gens. C'est-à-dire que nous avons une assemblée générale tous les ans qui dure 2 jours. Et tous les nouveaux, parce que tous les ans, il y a quelqu'un qui n'est pas venu l'année d'avant, on dit aux gens, si vous voulez raconter votre histoire, vous la racontez. Chaque fois, il y a des histoires très émouvantes. Et certains disent que c'est la première fois que j'en parle. Et souvent, ces gens-là qui ont 80 ans, ils se mettent à pleurer. C'est pour dire que les gens n'ont jamais parlé. Et si notre asso, elle a contribué à libérer des gens avant leur fin, à vider un peu ce qu'ils ont sur le cœur. Et si on a contribué à ce qu'il y ait un peu moins de racisme, qu'il y ait un peu moins d'appétit pour la guerre, parce qu'il y en a qui disent encore une bonne guerre, ça arrangerait bien, ben voilà, on aura fait notre goutte d'eau.
Justement, moi je me demandais, c'est quelque chose qui m'interroge souvent, cette longue phase de silence, comme si c'était une guerre qui n'avait pas existé, ou on parlait des événements aussi à un moment, une guerre qui ne dit pas son nom du moins. Quel effet ça a fait, alors au-delà de vous combattants, mais sur la société? Parce que moi j'ai l'impression que des fois, il y a une faille dans la mémoire collective par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas demandé de raconter?
D'abord, en Algérie, on était les occupants. Et on n'était pas les occupés. En France, on peut comprendre que cette guerre, on soit fiers de l'avoir gagnée. Là-bas, on était les occupants. Qu'est-ce qu'on les foutre là-bas? Donc déjà, on est un porte-à-faux, les occupants là-bas. Et deuxièmement, les gens ne veulent pas savoir, ça les dérange trop. Comme les camps d'extermination. Comment veux-tu que tu sois prêt à entendre ça? T'as la peine de le raconter, quoi. C'est pire et ô combien que la guerre d'Algérie. Parce qu'il n'y avait pas le même nombre. On parle de 60 millions de morts. Nous, on n'a pas pu tuer 60 millions de morts. Mais en proportion, peut-être que c'est les mêmes, il ne faut pas se tromper. On n'a pas été tant dans l'Algérie. On en a tué des gens et des temps. Et des gens qui le méritaient, entre guillemets, parce que tu ne méritais pas la mort, parce que tu es un ennemi. Mais des gens qui étaient pour rien, des innocents, et on en a tué. Quand on avait quelques-uns de chez nous qui étaient tués, ben c'était horrible, quoi. Il fallait, on t'encourageait à tirer sur tout ce qui bouge, quoi. Donc, des femmes et des enfants, on les a tués aussi. Donc, comment veux-tu qu'on en parle de ça? Tu ne peux pas. Pour avoir parlé avec quelques profs, l'histoire de l'Algérie, on passait par-dessus, on n'était pas fiers. Hein. Donc, c'était même pas dans le programme d'école. Voilà. Et puis, je voulais rajouter quand même, parce qu'il me semble que c'est important, le rôle de l'OAS. Quand ces quatre généraux, qui après les accords du Vienne ou avant, je ne sais pas, ont dit, nous, on veut garder l'Algérie française. Donc, ils ont fait boule de neige, ces gens. Tous les pieds noirs qui voulaient aussi garder l'Algérie française, j'ai dit, tous les pieds noirs, qui voulait garder l'Algérie française? J'ai pas dit tous les pieds noirs. Et ils se sont mis de ce côté-là. Et donc là, on a dit, puisqu'il faut partir, c'était la politique de la terre brûlée. On tuait tout ce qui n'était pas Algérie française. Arabes, musulmans, français, n'importe qui. Et donc, un pied noir qui est dans notre association, qui était lui pour l'Algérie indépendante, disait qu'il y avait le dicton, c'est la valise ou le cercueil. Il disait, c'est pas les Arabes qui ont dit ça, c'est les pieds noirs qui ont dit ça. C'est les pieds noirs qui ont fait partir les pieds noirs. Et ce qui me semble important de dire aussi, c'est que si les accords d'Évian, qui n'étaient pas parfaits, mais les pieds noirs pouvaient rester là-bas, les harkis auraient été, comment dirais-je, moins... on l'a considéré comme des bêtes, comme moins méprisé, je trouve pas le mot. Donc c'était pas parfait, mais c'était toujours ça. Si les accords d'Évian avaient été respectés, donc les pieds noirs auraient pu rester là-bas. Les pieds noirs étaient en principe catholiques, il y avait des églises dans tous les villages de la vallée. Ces gens-là auraient continué leur religion. Je ne vais pas défendre la religion catholique, c'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, il y aurait eu deux religions. Il y aurait eu deux religions, il y aurait eu moins de cet intégrisme qui aujourd'hui fait le ravage que vous savez. Et je pense qu'aujourd'hui ce qui se passe au gouvernement algérien, parce que le gouvernement algérien a eu aussi des pieds noirs. Je pense qu'aujourd'hui, 50 ans ou 60 ans après, la guerre d'Algérie n'est pas finie. N'est pas finie à cause de ça. À cause de l'OAS. Pas à cause de la guerre, à cause de l'OAS. Et c'est dramatique. Ceux qui ont participé à l'OAS ou ceux qui ont combattu pour elle sont grandement responsables.
Bon, ben là, cette année, hein, on commémore les 60 ans des accords d'Évian. Il y a donc un intérêt des médias Et on est aussi en pleine crise diplomatique parce que Emmanuel Macron fait des bourdes, puis pas des petites. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Et est-ce qu'on n'est pas là encore dans des travers de post-colonialisme? Est-ce qu'on n'est pas encore dans une posture où on regarde un peu ces gens-là de manière condescendante, en fait?
Non, bien sûr. On les prend, contrairement à ce que disait Lamine, ce que je disais tout à l'heure, on les prend encore pour des êtres inférieurs et on voudrait encore leur donner des leçons. Il y en a encore qui disent comment il faudrait que se passe la révolution qu'il y a là-bas. Et quoi qu'on en dise, le gouvernement est pro-gouvernemental algérien. Enfin, ils ne sont pas du côté des manifestants. Hein. Donc, on continue nos petites erreurs de colons et de gens qui se croient supérieurs. On est blancs, nous. Hein. On est blancs, ils sont bronzés. Donc, un test, c'est aussi que nous penserons que notre couleur de peau ne nous donne pas des privilèges.
Oui. Et du coup, est-ce que tu crois que ces efforts de commémoration servent à quelque chose?
Moi, j'y crois pas, mais pourquoi pas, ça va, il va y avoir des défilés au monument aux morts, des trucs drapeaux, patrie, haine, parce que ça aussi, il y en a qui prêchent la haine. Et c'est pas ça qui fera avancer le contre la guerre. Moi, je crois que ce qui peut faire avancer contre la guerre, mais on n'est pas demain la veille, c'est qu'il n'y ait plus de frontières. Il ne faut plus de frontières et il faut être tous citoyens du monde. Ce qui n'empêcherait pas d'avoir des langues locales, ce qui n'empêcherait pas d'être des pays où on décide un peu dans la région ou dans la nation. Ce n'est pas parce que tu es citoyen du monde que tout est perdu. Mais moi, je pense que tant qu'il y aura des frontières et qu'on les maintiendra, des frontières qui ont été faites par les colons dans les pays colonisés et qui ont été faites pour s'arranger, pour qu'il y ait un peu plus de pétrole pour l'un ou pour l'autre, les frontières, si vous regardez la carte du monde, c'est fait en dépit du bon sens. C'est fait en dépit du bon sens et c'est fait aussi pour que quand on s'en va, la guerre continue entre eux. Parce qu'on dit comme ça, on est regretté. Et si on est regretté, quand même, c'est mieux que non pas si on te dit ces gros cons, ils auraient pu rester chez eux. Donc, tout est fait pour que la guerre continue. Et puis, le commerce des armes, là, quand tu vois que c'est quand même le quatrième pays du monde où on exporte des armes. Donc, si tu fais des armes, il faut bien les interdire, ou alors c'est pas la peine de les faire. Peut-être qu'on pourrait faire autre chose.
Par rapport à justement cette espèce de tentative de réhabilitation depuis quelques gouvernements successifs du passé colonial en disant les bienfaits de la colonisation, etc. Bon, je me doute un peu de ta réponse, mais comment tu réagis, toi, quand tu entends ça aujourd'hui?
Nous sommes allés apporter notre culture en croyant qu'elle était la meilleure. Parce qu'il y a aussi un fond de religion là-dedans, il ne faut pas se tromper quand même. Donc on pensait que notre religion était meilleure que la leur. Mais de quel droit? De quel droit nous sommes allés apporter la culture à ce peuple? Ils avaient leur culture, c'était la leur, ils croyaient que c'était bon. Et puis, sans nous, si on n'était pas allés en Algérie en 1830, ils auraient évolué, ils n'auraient peut-être pas évolué pareil. Mais aujourd'hui, ils n'en seraient peut-être pas où ils en sont. Et puis on l'a fait pour qui, les bienfaits de la colonisation? On a assaini toute la plaine de la Métidja pour des pieds noirs qui ont gagné des sous et des sous. Et je prends ça comme exemple, mais on a fait autre chose. On a fait des écoles, on a fait tout ça, mais on a fait des écoles pour les pieds noirs. Il y avait 95% des pieds noirs qui étaient lettrés, et de l'autre côté, il y en avait 5%. 5% de lettrés chez les Arabes ou les indigènes, et 95% chez les... Donc, il ne faut pas dire qu'on a apporté la civilisation là-bas. C'est un mensonge, tout le monde le sait que c'est un mensonge. Mais qu'est-ce qu'ils disent les pieds noirs? Les pieds noirs pour l'Algérie française. Ils disent avec tout ce qu'on leur a fait quand même. Tout ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait pour eux, on l'a fait pour nous. Je ne sais pas comment on peut parler comme ça, quoi. Je ne sais pas. Alors. Bien sûr, on a fait des routes, ils s'en servent un peu. C'est la route, si elle y est, tout le monde s'en sert. Et les villages de campagne, les villages de montagne. En 58, il y avait très peu d'électricité. Aucun endroit, il y avait l'eau potable. Et dans la plaine, du côté d'Alger, tu vois, où étaient les pieds noirs, parce qu'ils n'étaient pas dans les montagnes, quand même. Ils avaient choisi les terres. Hein. Mais quand on pense aux dégâts que peut faire, il y avait quatre pieds noirs, dont un qui était dans le désert. Et les autres, c'était des viticulteurs, pour la plupart. Et lui, il avait des brebis dans le désert, des milliers et des milliers. Il ne savait pas combien il en avait. C'est ces quatre pieds noirs qui ont fait pression sur le gouvernement de l'époque, qui ont dit non, on lâche rien. Quatre hommes, que je ne sais pas s'ils sont au ciel ou à l'enfer, mais ils ont une grande responsabilité.
Je te laisse le mot de la fin, si tu veux. Voilà, peut-être un vœu pour l'avenir, peut-être en regardant vers l'avenir.
Je dirais que nous souhaitons, à l'association, que le gouvernement algérien lâche un peu du lest. Nous avons des gens, des associations que nous aidons, qui sont en prison, un non-ménacer qui est en prison, qui nous recevait chaque année là-bas, et d'autres. Nous souhaitons pouvoir reprendre les voyages avec ce peuple le plus tôt possible, parce qu'il y a plein de gens qui attendent à la porte pour revenir là-bas, des gens proches, des gens de nos familles qui sont venus une fois mais qui voudraient revenir. Et nous souhaitons surtout que le peuple algérien, puisqu'on parle d'eux, parce que nous aussi on n'a pas de leçon à faire, qu'ils deviennent un peu plus démocratiques.
Donc je rappelle, le nom de l'association c'est 4ACG, pour Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis contre la Guerre. Donc il y a une association d'anciens appelés, mais également ouvert à qui veut soutenir et adhérer. Et un site internet www.4acg.org. Il y a également un film qui a été fait, plusieurs. Hein,
mais... Plusieurs films. Dans un retour d'Algérie, et l'autre Troufion, et puis tant d'autres. Mais...
Et des livres.
Il y en a plein, et si on devait en lire qu'un, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, mais je dirais Une guerre sans gloire. C'est une dame qui l'a fait, et qui, je ne vais pas, ça peut pas sortir.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Cette émission a été réalisée par Alexandra Joff pour ondescourtes.org, la web radio du Libre. Elle est placée sous licence Creative Commons. Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez toutes les émissions Murmures sur ondescourtes.org.